Bonjour à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, Pensée mature et cœur d'enfant. En fait, ce sont là les deux caractéristiques essentielles qu'on devra avoir pour être capable d'entrer dans le royaume de Dieu, comme je vais vous montrer dans le sermon d'aujourd'hui. C'est notre objectif à atteindre, développer une pensée mature tout en gardant un cœur d'enfant. Maintenant, il y a deux passages bibliques qui traitent de ce sujet-là qui semblent se contredire. Mais comme on va le voir, ils ne se contredisent absolument pas. Au contraire, les deux vont ensemble, les deux constituent l'élément essentiel qu'il nous faut pour progresser spirituellement, pour rester alerte et éveillé jusqu'au bout. Vous allez voir. Reportez-vous pour commencer à 1 Corinthiens. Le premier livre de Corinthiens, on va aller au chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est l'apôtre Paul qui parle ici et il s'adresse à l'église de Corinthe en parlant justement de cette question d'être un enfant, là. Et il va expliquer des choses ici. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Paul explique ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ça, c'est la réalité. Mais il dit après, lorsque je suis devenu homme, donc adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, le principe qu'il donne ici, dans le fond, c'est que les pensées enfantines d'un tout jeune enfant ont fait place, dans le cas de Paul, à des raisonnements plus réalistes, plus fiables, plus solides, comme ça arrive dans l'ensemble des êtres humains. Quand on est enfant, nos pensées sont enfantines, c'est pas raisonnable. Donc, il faut éliminer ce qui est de l'enfant, ce qui manque de jugement, ce qui manque d'être de raison. Maintenant, allons à un autre passage dans Marc. Marc, cette fois-ci, l'évangile de Marc au chapitre 10. Marc, chapitre 10, et on va lire le verset 15, qui traite du même thème. Marc 10 et le verset 15. Qu'est-ce que le Christ dit ici? Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors, voyez-vous, vous avez comme la contrepartie de ce que l'apôtre Paul a mentionné. C'est que il nous dit ici que pour entrer dans le royaume, il faut garder un aspect précieux de l'enfant ou de l'enfance. Cette spontanéité-là, l'humilité d'un enfant. Et Paul l'explique davantage. Allez à 1 Corinthiens. On était tout proche tantôt. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, Paul explique ce que ça signifie que d'avoir en même temps un cœur d'enfant et une pensée mature, un jugement selon Dieu, une pensée, un raisonnement selon Dieu. Alors, 1 Corinthiens 14, et on va lire le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Voyez-vous, sous le rapport du jugement ou du raisonnement, il faut vieillir, faut passer à un autre registre. Il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Ça, je vais vous l'expliquer après, là, parce que ça semble bizarre comme explication, comme affirmation. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors là, il revient là-dessus. Ne pas être des enfants sous le rapport du jugement, donc c'est ne pas être enfantin ou immature dans notre façon de penser ou de raisonner, dans notre façon de voir les choses, de raisonner. Parce qu'il faut grandir dans la maturité, même simplement sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, c'est également la même chose. Maintenant, j'ai le petit bout de phrase où il dit, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Ça fait drôle, comme si les enfants étaient méchants, puis il dit, soyez méchants comme des enfants. Non, c'est que c'est l'inverse. En ce qui concerne la méchanceté, soyez comme des enfants, c'est que les enfants, tout jeunes, ne sont pas méchants. C'est ça. C'est ça ce que ça veut dire ici. Les enfants sont sans méchanceté, tout jeunes, là, sans ruse, sans désir de nuire aux autres. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, après, qu'il revient en disant, soyez des hommes faits du côté de la pensée ou du jugement. Dieu veut que nous développions les deux aspects dont je vous parle dans le message aujourd'hui. Avoir au point de départ l'attitude de cœur d'un tout jeune enfant. D'avoir l'attitude de cœur d'un tout jeune enfant. Il y a beaucoup dans ce que je vous explique aujourd'hui. Et en même temps, d'avoir une recherche de maturation au niveau de notre jugement, au niveau de notre compréhension, au niveau de notre évaluation des choses. Ce qui veut dire au niveau du discernement. Et c'est pour ça que quand Dieu nous appelle, il nous apprend graduellement, progressivement, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au début, on peut discerner avec son aide les gros morceaux de ce qui est bien et ce qui est mal. Mais avec le temps, on peut aller dans les plus petits détails pour discerner le bien du mal, ce qu'on n'a pas au point de départ. Ça se fait avec le temps, avec l'expérience de la parole de Dieu. Le tout dans l'obéissance à ses lois. De garder l'attitude d'un jeune enfant en ce qui concerne l'humilité et de maturer au point de vue de discernement. C'est ce que Dieu attendait de la nation d'Israël ancienne. Pour les bénir, il voulait qu'ils soient bien, il voulait qu'ils soient heureux. Mais ils lui ont tourné le dos. Reportez-vous à Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 30, ce sont là de grandes leçons pour nous, que Dieu appelle aujourd'hui son petit troupeau. Ésaïe chapitre 30, on va lire les versets 8 à 13. Et ici, on voit à partir du verset 8 dans Ésaïe 30, que Dieu a donné un ordre à son serviteur Ésaïe d'écrire les choses qu'il lui révélait dans un but bien précis. Il dit, « Va maintenant, Ésaïe, écris ces choses devant eux, devant les Israélites à l'époque, et pour nous aujourd'hui, les Israélites spirituels. Écris ces choses devant eux sur une table, c'est-à-dire dans un livre pour nous, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement, et à perpétuité. Et c'est pour ça que nous avons encore accès à ces écrits tellement importants. Dieu lui a donné l'ordre de les mettre par écrit, et Dieu, dans sa puissance, a gardé ces écrits-là jusqu'à nous maintenant. Et pas seulement ça, c'est qu'ils seront là dans le monde de demain, après le retour de Christ, pour que vous et moi, nous les expliquions aux êtres humains qui vont être encore vivants à ce moment-là. Ça comprend tout ça dans la déclaration que le Christ, que Dieu a fait ici, que le Christ a fait aussi parce que le Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. Et il dit au verset 9, « Car c'est un peuple rebelle. » Il savait qu'Israël n'allait pas tenir le coup. « Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. » Il leur a offert. Et quand Israël mettait en pratique les lois, ils étaient bénis, c'est comme nous. Mais quand ils s'éloignaient ou qu'ils se détournaient, il n'était plus béni et il en souffrait beaucoup. Alors, il dit ici comment les Israélites ont agi, comment ils agissaient au verset 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité, ne nous dites pas de choses qui sont difficiles à entendre ou qui exigent de nous des changements. Dites-nous des choses flatteuses, c'est ce qu'ils voulaient entendre. Prophétisez des chimères, des choses inventées. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez-vous de nous autres. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Alors, c'était un détournement de Dieu, en fin de compte. Verset 12, c'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez ma parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, comme on voit dans nos nations israélites modernes, et que vous les prenez pour appui, le mensonge et les détours, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Et c'est arrivé à plusieurs occasions dans la nation d'Israël ancien que la ruine est arrivée, Dieu les a emmenés en captivité pour qu'ils apprennent et tout ça. Et lorsqu'ils revenaient à Dieu, Dieu les bénissait, mais ils retombaient continuellement. Et nos nations sont dans cet état-là actuellement. Et pour nous, il y a des grandes leçons spirituelles parce que nous qui connaissons ce que Dieu nous a gardé dans sa parole, qui nous montre le chemin, on est toujours libre Et il faut faire attention à ce qu'on choisit de penser, de manger, de dire, de ne pas dire. C'est un travail de toute une vie, mais c'est un choix qu'on doit effectuer, qu'on doit continuer à mettre en place avec un cœur d'enfant, avec un désir de développer la mentalité de Dieu. Les nations israélites modernes, comme je vous dis, réagissent exactement de la même façon que les nations israélites anciennes. Et il y a des grandes leçons là-dedans. Nous devons avoir deux choses. Nous devons avoir ces deux choses-là. Garder le cœur d'enfant et développer le discernement mature, humain, mais nous, dans notre cas, le discernement spirituel en ce qui concerne la voie à suivre et à maintenir. Pour progresser spirituellement et pour être alerte et ferme, parce qu'il faut être alerte dans les circonstances où nous vivons actuellement, parce qu'il y a tellement de faussetés qui circulent et de pièges dans la société moderne qu'il faut être alerte, il faut être vigilant et il faut être proche de Dieu. Et Dieu est toujours prêt à nous aider, comme des parents font avec un tout petit enfant. Comme des parents font avec un tout petit enfant. Qu'est-ce qui arrive avec un enfant tout jeune quand il est laissé à lui-même? Il manque de jugement. Il n'a pas encore le jugement. Et il peut faire des choses regrettables, des choses dangereuses, des choses dommageables. C'est le cas d'un petit enfant. C'est pour ça qu'on a tellement soin de lui quand il est petit. À mesure qu'il grandit, qu'il devient plus en possession des moyens qui lui sont donnés à ce moment-là, qu'il développe, bien là, on peut donner plus de jeux, plus de possibilités. Mais il peut arriver tranquillement à prendre ses décisions, à faire attention à ce qu'il doit faire attention, éviter ce qu'il doit éviter. Mais au début, on doit lui éviter ces choses-là et ensuite, il peut apprendre. Mais laissé à lui-même, au point de départ, il manque de jugement et il est en danger d'une certaine façon. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne tout au long de notre vie. Et c'est pour ça qu'on doit être en contact avec lui, lire sa parole, l'approfondir, la reprendre régulièrement, les brochures, comme on mentionnait, le cours de Bible et tout ça, pour absorber la mentalité de Dieu. Parce que Dieu nous enseigne pour nous amener au bon but. Et lorsqu'on a besoin de comprendre quelque chose, parce que quand Dieu nous appelle, il travaille avec nous et il nous bénit quand on fait ce qu'il faut, ou il va nous permettre certaines difficultés pour qu'on apprenne davantage. Mais si on est en train de se détourner de lui, il peut nous châtier, comme il dit, parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on arrive au but. Il veut qu'on soit heureux, qu'on ne manque pas notre salut éternel. Alors, parfois, il doit nous corriger. Comment? Par sa parole. Parce qu'il nous dit quoi faire. Et il nous montre ce qui est arrivé à ceux qui se détournent. Et il nous montre comment sont bénis ceux qui veulent faire sa volonté. Ou comment sont bénis ceux qui veulent faire sa volonté et qui ont des épreuves, mais qui peuvent passer à travers, justement, parce que Dieu les soutient dans ces épreuves-là. Comme c'est le cas de plusieurs des membres de l'Église actuellement. Alors, Dieu nous enseigne par sa parole, par son Église aussi. Dieu nous enseigne également par les circonstances qu'il nous permet d'expérimenter, par les situations ou les événements qu'il nous permet de vivre, que ce soit facile ou difficile. Lui se sert de toutes ces circonstances-là pour nous aider. Pourquoi il permet des circonstances difficiles ou des circonstances faciles? C'est pour attirer notre attention sur lui, et nous orienter avec amour vers le but. Et quand c'est des circonstances difficiles, c'est dans le même esprit, par amour, pour qu'on arrive au but. Si nous acceptons ces enseignements, si nous acceptons ces enseignements avec le cœur simple d'un enfant dont je vous parle, d'un tout petit, là, il nous donne de croître à ce moment-là en jugement. C'est là que le jugement spirituel se développe. Quand on met en pratique les choses qu'il nous demande de faire. Même si on n'est pas parfait, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait tout de suite. Il connaît nos imperfections. Il nous donne du temps, heureusement. Il nous donne du temps pour qu'on puisse changer, pour qu'on développe justement le discernement puis la sagesse. Écoutez, pourquoi est-ce qu'un jeune enfant, je parle d'un tout jeune enfant, manque de jugement? C'est très simple, c'est très clair. Parce que, un, il n'a pas la connaissance. Quand on vient au monde, comme on dit en latin, tabula rasa, c'est-à-dire table rase. Il n'y a rien sur la table. On ne connaît rien. Donc, l'enfant tout jeune manque de jugement parce qu'il n'a pas de connaissance. Et il manque de jugement parce qu'il n'a pas l'expérience des choses pour développer le jugement, même sur le plan strictement humain. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'apôtre Paul reprochait aux Hébreux. On va le voir. Les gens de l'Église, à ce moment-là, les Hébreux dont je vous parle, étaient dans l'Église depuis longtemps. C'était des membres de longue date. Reportez-vous à Hébreux chapitre 5, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 5. On va voir comment Paul s'adresse à ces membres de l'Église de longue date. Et ça donne à réfléchir à nous aujourd'hui, qui sommes dans l'Église depuis longtemps, dans certains cas, parce que ça s'applique à nous aussi. Tant que la course n'est pas finie, tant qu'on n'est pas arrivé au royaume, elle n'est pas finie. Ça, faut en être conscient. Il faut garder nos priorités en ordre. Alors, Paul a expliqué aux membres de l'Église, à ce moment-là, aux Hébreux, qui étaient là depuis longtemps, qu'ils ne s'étaient pas appliqués à connaître la vérité. Ils n'étaient pas allés chercher la connaissance comme ils auraient dû aller la chercher et l'intégrer. Et qu'ils ne l'avaient pas mis en pratique, qu'ils n'avaient pas fait l'expérience de la parole comme ils auraient dû le faire. Donc, ils n'étaient pas prêts. Et c'est pour ça que Paul leur reproche ces choses-là. Ils n'avaient donc pas développé, si vous voulez, ça revient à ce que je vous explique, la maturité spirituelle que Paul attendait d'eux. Ça, c'est des choses qui se produisent dans l'Église de Dieu, même pour les membres anciens aujourd'hui. Le risque, il est toujours là. Alors, qu'est-ce que Paul dit aux Hébreux ici? Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voyez-vous, il s'adressait à des gens qui étaient dans l'Église depuis très longtemps. Et si ces gens-là étaient devenus lents à comprendre, c'est qu'ils avaient compris avant, mais avaient perdu de la compréhension. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas appliqués comme il faut à mettre en pratique les choses qu'ils avaient apprises. Il y a beaucoup dans le petit passage que je vous donne ici. Si nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous, membres de l'Église, qui êtes là depuis longtemps. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire vous devriez être capable d'expliquer les choses de la Bible à quelqu'un qui vous demande, par exemple. Pas parce qu'on doit prêcher, les gens ne doivent pas prêcher aux autres pour essayer de convertir les autres, ça c'est clair dans la Bible. Mais il dit, vous devriez être des maîtres, c'est-à-dire que vous devriez posséder la matière. Et c'est pour ça qu'on étudie la même Bible toute notre vie. Et c'est comme quand on arrive à des examens universitaires de dernière ligne, là, quand on achève, on révise la matière. C'est la même matière qu'on a appris au cours des années, mais on l'approfondit pour être capable de passer l'examen. C'est la même chose pour nous. Alors, il dit, vous, en effet, qui devriez depuis longtemps être des maîtres, vous devriez connaître votre matière et en vivre. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, donc les choses de base, des oracles de Dieu, des paroles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous avez besoin de petit lait encore et vous n'êtes pas capable de prendre la nourriture solide. Autrement dit, il dit, vous devriez savoir ça depuis longtemps. Vous devriez l'avoir prouvé, l'avoir expérimenté, l'avoir pratiqué, mais vous ne l'avez pas fait, donc vous êtes devenu lent à comprendre. Et c'est un risque pour les membres de l'Église, même les plus anciens. Et je dirais que le risque est plus grand quand on est ancien, parce qu'on dit, ça fait longtemps que j'ai lu les mêmes choses, je connais ça, j'ai pas besoin de revoir, j'ai pas besoin d'y repenser, je le sais. C'est ça le danger de venir lent, là, à comprendre. Versets 13 et 14. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Celui qui est encore à ses tout débuts, là, qui n'a presque pas de connaissances et qui n'a pas de pratique, il n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Il ne la pratique pas suffisamment. Car il est un enfant. Il est resté au stade initial, si vous voulez. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Okay? Ceux qui ont avancé, ceux qui ont grandi, là, ils peuvent prendre une nourriture plus solide, l'absorber, en vivre et l'apprécier. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Ça s'exerce comment? Dans la pratique. pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, la pratique, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais vous, ce qui se passe en nous quand on étudie la parole puis qu'on s'applique à la mettre en pratique, c'est que à ce moment-là, la compréhension vient, il y a une absorption de la parole de Dieu dans une dimension de plus en plus grande. Parce que les eaux de Dieu sont très profondes. Je pense que de notre vivant, je sais que de notre vivant, on ne comprendra jamais toute la parole de Dieu dans sa dimension, dans sa profondeur. C'est ça. Mais si on fait ce qu'on a à faire, le bout de chemin qu'on va faire, Dieu va le bénir et on sera capable d'arriver à terme. Vous savez, le corps d'un bébé ne digère pas n'importe quoi. Il n'est pas capable de digérer la viande. Il n'est pas capable de digérer de la nourriture solide. Un bébé naissant, absolument pas. Il digère le lait, par exemple. Ça, il en a besoin. Parce que à ce niveau-là, c'est ça dont il a besoin. Comme nous, quand on arrive à l'église, on commence avec les choses de base. C'est ça qu'on a besoin. On n'est pas capable d'absorber tout encore de nourriture solide. Ça va venir en cours de route. Et ça prend un certain temps. Puis, là, le petit bébé peut prendre de la nourriture plus consistante un peu. On va lui donner des choses quand même molles ou des choses semi-liquides. Alors, voyez-vous, il y a une progression là-dedans. Jusqu'à ce qu'il puisse manger une nourriture de plus en plus solide, là, pour grandir, puis aller chercher dans cette sorte de nourriture-là les éléments dont il a besoin pour le stade où il est rendu et pour les stades suivants. Tout ça, ça se tient. Et c'est exactement le même processus pour nous sur le plan spirituel. Et on va continuer ce processus-là jusqu'au retour de Christ, jusqu'au jour où lui va nous rendre parfait. On ne sera pas parfait tant qu'on ne sera pas arrivé, mais on devra être en démarche de continuer à se nourrir et à mettre en pratique, garder nos bonnes priorités. Quand Dieu nous appelle, on apprend d'abord les choses de base. C'est ce que je viens de vous dire. On apprend d'abord les choses de base, les choses simples, les 10 commandements, par exemple. C'est pas compliqué, c'est clair. Les 10 commandements, c'est très clair. C'est la base. C'est un peu comme quand on commence à aller à l'école. On apprend quoi pour commencer en termes de mathématiques, par exemple? On apprend les nombres. De 0 à 9. On apprend ça. Ça, c'est la base. Puis parfois, ça prend un bout de temps parce que pour savoir comment faire notre 3, c'est difficile. Et puis pour savoir que c'est 4 qui vient ensuite, c'est une autre étape. Alors, voyez-vous, on commence par la base. C'est comme ça. Absolument. Spirituellement, plus on étudie et plus on met en pratique les enseignements du Christ, plus nous découvrons la dimension spirituelle, la dimension profonde, la dimension étendue, élaborée de sa parole. Plus on comprend la pensée du gouverneur de l'univers et de son Fils, et plus on comprend son plan. On n'a pas fini de le comprendre, même les plus vieux parmi nous ici. On va en découvrir encore. C'est pour ça qu'il faut rester éveillé, alerte et en recherche constante jusqu'à ce que ce soit terminé. Vous savez, il y a bien des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, mais qu'on apprend à discerner en mettant en pratique ce qu'on connaît déjà et en faisant nos études régulièrement. Par exemple, c'est pas mentionné dans la Bible de ne pas fumer. Alors, quelqu'un pourrait dire, écoutez, c'est pas mentionné dans la Bible qu'on peut pas fumer. C'est vrai, absolument vrai. Sauf que, par déduction et par d'autres principes bibliques ailleurs, quand on fait l'étude, on voit que on ne doit pas fumer parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne doit pas détruire le temple du Saint-Esprit et qu'on ne doit pas rien mettre de mauvais dans notre corps qui vient à l'encontre de ça. Alors, voyez-vous, il y a tout un raisonnement qui se fait, là. Au début, on ne sait pas. Et il y a des gens qui arrivent à l'église et qui fument et qui ont à lutter contre ça quand ils découvrent, mais ils ne savent pas au point de départ. Et c'est pas en lisant les 10 commandements qu'ils le voient. Voyez-vous, c'est en étudiant, c'est en recevant les enseignements de l'église, puis c'est en regardant ce que la Bible dit, dans le soin qu'on doit prendre de notre corps. Avec quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, quand il a découvert les Amériques en 1492, il connaissait pas le tabac. Parce qu'en Europe, les gens ne fumaient pas. C'est les Amérindiens, c'est les tribus indigènes qui utilisaient le tabac. Ça a été répandu par la suite. Alors, il y a toutes ces choses-là qu'on doit comprendre avec le temps. Comme par exemple, de voir les deux côtés d'une situation ou d'une cause ou d'un conflit. On apprend ça dans la Bible graduellement. C'est pas marqué dans les 10 commandements que quand on voit une cause qu'on a à décider, il faut voir les deux côtés de la question. Oui, ce sont des nuances qu'on découvre avec le temps à partir des lois de Dieu. Ça en fait partie, mais ce n'est pas tout spécifié dans la Bible. On apprend, on avance dans ce sens-là. C'est pas marqué de pas manger de sel. Au contraire, la Bible dit « Soyez le sel de la terre ». Mais remplissez pas votre assiette comble de sel, parce qu'on sait que le sel est nocif pour la santé, il y a des conséquences négatives. Alors, encore là, c'est de détruire notre corps si on exagère du côté du sel ou du sucre. Voyez-vous, c'est pas des choses qui sont nécessairement mentionnées directement, mais qu'on apprend avec le temps à partir des lois de Dieu, et ça fait partie des lois de Dieu, même si c'est pas spécifié clairement. Vous savez, Dieu a bâti la Bible pour qu'elle soit comprise. Dieu a bâti la Bible pour qu'elle soit comprise par ceux qui veulent lui obéir. Elle est bâtie pour être comprise par ceux qui veulent lui obéir et qui agissent dans ce sens-là. Absolument. Et elle est bâtie pour qu'elle ne soit pas comprise par ceux qui ne veulent pas obéir ou qui ne veulent pas prêter oreille à la Bible. Ils auront leur occasion plus tard. Dieu n'est pas injuste. Il appelle pour l'instant seulement un petit nombre de personnes qui auront, elles, la responsabilité d'annoncer l'Évangile au monde, dans le monde de demain, et d'aider les gens à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas essayer de convertir les gens maintenant, les membres d'Église. C'est le rôle de l'Église d'annoncer l'Évangile, mais ce n'est pas le rôle des membres. Ça, on comprend. Et ça, on ne comprend pas ça nécessairement en arrivant à l'Église, parce qu'on est porté, en découvrant la splendeur de la vérité, d'en parler à tout le monde autour. Et c'est la plus grande erreur qu'on peut pas faire. Je l'ai faite moi-même. Parce qu'on a à cœur que les autres voient les belles choses qu'on a trouvées. Mais Dieu dit, faites pas ça. C'est Dieu qui appelle, c'est pas nous. Alors, voyez-vous, c'est une chose qu'on apprend. En venant à l'Église, on pense bien faire en le faisant, mais après, on apprend que non, faut pas le faire. C'est pas dans la mentalité de Dieu. C'est pas selon le plan de Dieu qui va appeler tout le monde, mais au moment où lui va choisir. C'est pas moi qui peux convertir mon beau-frère ou mon père ou mon enfant. Absolument pas. C'est pas du tout ça. Alors, voyez-vous, on apprend graduellement à partir des mêmes lois, mais on apprend en détail. On va plus loin. Mais Dieu a bâti la Bible pour qu'elle soit comprise par ceux qui veulent lui obéir, et ils la comprennent, puis ils lui obéissent, et pour qu'elle ne soit pas comprise par ceux qui ne veulent pas lui obéir. Regardez Proverbe 28. Proverbe 28 précise exactement ça. Proverbe chapitre 28 et le verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Toute petite phrase. Ceux qui sont livrés au mal, c'est comme on était avant, là. On était tous là. On faisait le mal, on pouvait faire des choses au mieux si on pensait, mais on faisait le mal. Tous les êtres humains sont comme ça au point de départ. Mais ceux qui continuent à être livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. C'est pas ce qui les intéresse. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Oui, il y a une compréhension que Dieu donne à ce moment-là. Plus on lui obéit dans le temps, plus on comprend de choses, plus on est capable d'avancer. Reportez-vous à Ésaïe 28, quelques pages après dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28, s'il vous plaît. Dieu explique comment sa Bible est écrite et comment elle peut être comprise par certains et pas comprise par d'autres. La même Bible, les mêmes mots, les mêmes versets. Ésaïe 28, le verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevés, qui viennent de quitter la mamelle? Autrement dit, est-ce que c'est à des nourrissons, des bébés naissants qu'on peut faire comprendre la parole? Non. Parce qu'il faut aller plus loin, il faut comprendre des choses, il faut être rendu à une certaine étape. Et regardez après qu'est-ce qu'il dit. Alors, c'est pas pour les nourrissons, c'est pas pour les petits-enfants qui sont au lait, je reviens à ça. Ces petits-là vont devoir, spirituellement, aller étape par étape. Et lorsqu'ils seront assez développés pour comprendre, ils vont pouvoir aller ici et là, dans la Bible, et là, comprendre des choses, et mettre ensemble des principes qui sont expliqués. Regardez le verset 10 maintenant. Car, et là, il dit comment ça se comprend, sa parole. Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Alors, voyez-vous, c'est pas automatique. Ça veut dire que dans la Bible, c'est dispersé un peu partout, la vérité, et que ça demande de chercher. C'est pour ça que c'est marqué ailleurs aussi, cherchez et vous trouverez. Même pour ceux que Dieu appelle, il y a une recherche à faire, il y a un approfondissement à développer. Alors, un peu ici et un peu là, ça demande un effort de recherche pour rassembler les différents morceaux de l'image, pour approfondir. Et ça, c'est le travail de toute une vie. On n'a jamais fini de faire ça. Et parfois, il faut se faire violence pour dire, pour le faire. Des fois, il y a des journées qu'on a moins le goût d'étudier et tout ça. Il faut s'y mettre. Demander à Dieu son aide, il faut s'y mettre, continuer, ne pas laisser aller le temps. Dieu a envoyé ses prophètes aux Israélites pour qu'ils apprennent ses lois, apprennent ses voies, et qu'ils en soient bénis, qu'ils aient un repos spirituellement, et qu'ils sachent le sens de leur vie. Mais, comme on sait, ils n'ont pas voulu. Et parce qu'ils n'ont pas voulu, ils se sont fait offrir les choses, complètement, par ses serviteurs, par ses prophètes. Mais ils ont rejeté les enseignements. Et parce qu'ils ont rejeté les enseignements, et dans le fond, qu'ils ont rejeté Dieu, il ne leur a pas été donné de comprendre. Il ne leur a pas été donné de comprendre. Voyons ce que Dieu disait à sa nation choisie. Ésaïe 28, le verset 12. Il lui disait à sa nation d'Israël, « Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors, ça a été mentionné clairement. Et si vous regardez, je vais vous le dire, pas besoin de vous y reporter, mais dans Ésaïe 30, le verset 15, Dieu rappelle exactement la même chose. Ésaïe 30, verset 15, deux pages plus loin. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Ils ont fait le choix. D'où le fait, je reviens là-dessus, qu'ils n'ont pas compris. Et si on cesse d'obéir, la compréhension diminue. Ça va exactement, c'est comme un vase communicant. Ça va dans le même sens. Explication, on revient à Ésaïe 28, verset 13. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, qu'ils l'ont rejeté, fin du verset 12, ils n'ont pas voulu écouter. Qu'est-ce qui est arrivé, verset 13? Pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse, mais oui, c'est pas pour leur bonheur immédiat, là, et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Voyez-vous, c'est la même Bible, les mêmes préceptes sur préceptes, un peu ici, un peu là, mais pour ce groupe-là qui a refusé, c'est pour qu'il soit enlacé et pris, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas comprendre. Qu'il ne puisse pas comprendre. Les mêmes règles et les mêmes principes que ceux qui les mettent en pratique sont capables de comprendre. C'est fort. Ésaïe 29, juste un peu plus loin. Ésaïe 29, regardez le verset 10 d'Ésaïe 29. Ce que l'Éternel a fait par rapport à sa nation d'Israël à ce moment-là. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme un livre cacheté. C'est ce qui est arrivé parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et c'est pour ça que nos nations israélites ne comprennent pas la vérité. Ils ont toutes sortes de fausses religions auxquelles ils mettent leur confiance, dans lesquels ils mettent leur confiance, mais qui ne sont pas la religion de Dieu. Résultat, versets 11 à 13. Toute la révélation à ce moment-là est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ceci ». Et il répond « Je ne le puis, car il est cacheté. Le livre est fermé, je suis pas capable de le lire. Je sais lire, mais je peux pas le lire. » Ou, et là il donne un autre exemple, je dirais qu'il est encore plus précis, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, ma nation, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, ils parlent de moi, ils ont toutes sortes de religions, ils pensent me servir, ils observent le dimanche, ils observent les fêtes païennes qui remontent à l'Antiquité, mais ils m'honorent des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez-vous, ça, c'est la conséquence du rejet de Dieu et de ses voies. Voyez-vous, les appelés, c'est-à-dire ceux à qui Dieu ouvre les yeux sur la vérité biblique, sur son plan, sur le but de la vie, ceux-là doivent, et je reviens à ça, approfondir la connaissance qui leur est donnée jusqu'au bout de leur vie. Ça ne doit jamais s'arrêter. Approfondir la connaissance que Dieu nous donne, comment? En la mettant en pratique. En la mettant en pratique au mieux. On réussit pas tout d'un coup, mais en travaillant à la mettre en pratique graduellement. Et en gardant un cœur d'enfant, c'est-à-dire croire ce que Dieu dit, avoir l'humilité de reconnaître nos fautes, et quand on se trompe, demander pardon et continuer. Dieu s'attend à ce que ce soit comme ça, et Dieu nous aide même dans ce sens-là, parce qu'il sait de quoi on est fait. Il mentionne ça à différentes occasions. Voyez-vous, les 10 commandements et les règles qui s'y rattachent, ça, c'est la base de toute la Bible. La base de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La Bible, là, je précise, elle n'est pas écrite d'une façon chronologique. Il n'y a pas un ordre de temps. Et ses enseignements ne sont pas présentés dans l'ordre non plus. C'est mêlé. C'est pour ça qu'il dit, faut chercher un peu ici, un peu là. C'est comme ça que les Écritures sont construites. Et ceux qui les mettent en pratique le comprennent, et ceux qui ne les mettent pas en pratique ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ou qu'ils ne savent pas lire, ou qu'ils ne savent pas ce que veut dire les mots, parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reçu la compréhension. En plus de préciser clairement les 10 commandements, puis les règles correspondantes, l'Ancien Testament décrit en fait l'histoire de la nation choisie, comme on a vu un peu. Et ça décrit en même temps les conséquences qui venaient sur eux quand ils obéissaient, ils étaient bénis, ça allait bien, ou quand ils s'éloignaient de Dieu, il y avait des conséquences négatives, ils en souffraient. Alors l'Ancien Testament nous décrit ça pour nous montrer à nous les choses qu'on doit connaître pour éviter ou pour faire. Et l'Ancien Testament nous fournit aussi des précisions sur comment appliquer les 10 commandements dans certaines situations. Mais là, je précise, la Bible ne donne pas toutes les situations humaines qui peuvent arriver. Et encore là, ça demande le développement du jugement selon Dieu. Exactement, avec son aide. C'est pas écrit au complet, là. C'est comme le fait de pas fumer, qui est pas écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Mais dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs situations qui nous aident à comprendre puis à mettre en pratique. On voit ça, entre autres, dans le livre des Proverbes, dans le livre des Psaumes. Pas seulement là, mais disons plus fortement là-dedans. Le Nouveau Testament, lui, se base sur l'Ancien. Ça va ensemble. Ça forme un tout. Et ça, c'est une chose qu'on apprend quand on vient à l'Église pour certains d'entre nous. Certains d'entre nous avaient connu le Nouveau Testament, mais pas l'Ancien. Et on apprend à découvrir l'Ancien puis à réaliser que les deux vont ensemble. Ils sont inséparables. Le Nouveau Testament se base sur l'Ancien. Et en fait, il explique l'esprit de la loi de l'Ancien Testament. C'est ça. Et tout va ensemble dans ce sens-là. Faut considérer vraiment la Bible comme un tout indissociable. Un peu ici, un peu là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. En mettant en pratique cette connaissance, à ce moment-là, notre connaissance, bien sûr, s'approfondit, mais notre compréhension augmente, ce qui va ensemble. Et je le rappelle, c'est un processus de toute notre vie. Si quelqu'un s'arrête à la connaissance des 10 commandements, sans aller plus loin, ou en se limitant dans sa pratique, à ce moment-là, ça devient comme superficiel. Et il n'avance pas vraiment. Faut aller plus loin. Il ne voit pas et ne saisit pas les aspects spirituels de la loi magnifique de Dieu. Il y a une maturation qui ne s'effectue pas. C'est comme si un enfant, et là je vous donne un exemple qui va vous aider, c'est comme si un enfant en restait toujours au nombre de bases qu'il a appris. Il resterait toujours dans son éducation au chiffre de base, au nombre de bases, du 0 à 9, et qu'il n'allait pas plus loin, sans développer comment ça s'applique dans les additions, dans les soustractions, dans les multiplications. C'est les mêmes nombres, mais là, voyez-vous, on les utilise autrement pour arriver à des résultats. Sans aller vers l'utilisation de ces nombres de base pour les appliquer plus tard. Parce que les mêmes nombres de base, du 0 à 9, là, il va les appliquer plus tard en algèbre, en trigonométrie, dans les calculs plus poussés. Il va les utiliser pour résoudre des problèmes de toutes sortes, même pour faire son budget, C'est les mêmes nombres, là, de 0 à 9. Exactement. Voyez-vous, on part de la base, puis on développe ensuite. Les nombres de base, il va les utiliser plus tard, s'il va plus loin, en architecture, s'il devient un architecte ou un ingénieur, ou en administration quelconque. Et ça, c'est la maturité sur le plan humain. Une maturité qui vient, un, de la connaissance des choses de base, les nombres de base du 0 à 9, et qui vient ensuite de l'application ou de l'expérimentation de ces mêmes nombres-là dans différents secteurs, que ce soit votre budget personnel ou que ce soit dans l'administration publique ou que ce soit dans votre carrière ou dans les mesures que vous faites si vous êtes mécanicien ou si vous êtes dans d'autres domaines. Quand on arrive à l'Église de Dieu, au début, notre compréhension, elle est limitée, superficielle. C'est normal. C'est normal. Il doit y avoir une croissance là-dedans. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance ». C'est que c'est jamais fini, ça. Et moi, je dis ça souvent dans mes sermons, c'est qu'on n'aura jamais fini de connaître Dieu non plus. Dieu est infini. Ça, c'est fascinant parce que on commence à le connaître maintenant, dans la chair humaine. Quand on sera dans le monde de demain, on va le connaître avec plus de possibilités. Mais Dieu est tellement grand, puis il a vécu éternellement. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais fini de découvrir certains aspects de sa personnalité. Et ça, c'est fascinant. Mais c'est pour vous démontrer qu'on commence tout petit. On commence au petit lait. Et on est orienté vers quelque chose de fantastique qui s'en vient. On découvre actuellement des qualités de Dieu puis de ses capacités, puis ça nous fait rêver. Mais c'est rien à côté de ce qu'on découvrira réellement ensuite dans le temps qui vient. Alors, l'Église nous guide pour nous enseigner puis nous aider dans le cheminement de compréhension. On voit ça dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Dieu a établi une Église. Dieu a une Église sur la face de la terre. Et comme M. Matt expliquait dans la sermonnette, ce n'est pas les églises qui se disent chrétiennes qui sont chrétiennes. Pour être chrétien, il faut vivre selon ce que le Christ nous dit et mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. C'est pour ça que le Christ disait aux gens autour de lui, « Pourquoi vous m'appelez Seigneur puis vous faites pas ce que je vous dis? » Alors, vous n'êtes pas chrétien si vous faites pas ce que je vous dis. Si vous observez encore les fêtes du monde, si vous n'observez pas les fêtes de Dieu, si vous n'observez pas le sabbat et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, tout ça se tient. Dieu a mis une église pour enseigner, pour diriger, pour aider les gens à faire le chemin. Éphésiens 4, voyez ici, Éphésiens 4, verset 11, ce que Paul dit à propos du Christ. Il dit, « Et il, le Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ça, c'est la structure de l'Église, qui est comme ça depuis le début, là. C'est que Dieu a établi dans son Église, des gens pour enseigner ceux que Dieu appelle. OK? Alors, ça, c'est une structure qui ne change pas. Maintenant, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour aider ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part pour apprendre les voies de Dieu. Ils ont besoin de se faire expliquer. Comme moi, j'ai encore besoin, même si je suis ministre, d'étudier chaque jour, de vérifier des choses, d'approfondir, d'écouter les autres ministres supérieurs à moi qui ont plus d'expérience. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est l'Église. Pour que l'Église se développe, pour que les membres de l'Église se développent, soient transformés et par la connaissance et par la mise en pratique des choses qui nous sont apprises. Tout ça va ensemble exactement. Jusqu'à ce que nous soyons, verset 13, parvenus tous à l'unité de la foi. Qu'on croit la même chose, qu'on ait les mêmes buts, les mêmes façons de faire, la même foi, et de la connaissance du Fils de Dieu. Parce qu'on n'a pas fini de connaître le Fils de Dieu. Lui aussi, on va le découvrir encore davantage avec le temps, avec nos études, avec les expériences. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Voici la maturité. L'état d'homme fait, un jour, on sera mature parfaitement, spirituellement. Quand Dieu va nous rendre parfaits le jour de son retour. Mais d'ici là, il faudra être en train de développer cette maturité-là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est fantastique. C'est qu'il va nous donner d'avoir la même stature parfaite, la même perfection que le Christ. On sera pareil comme notre grand frère. C'est lui qui a tracé la voie de la famille. Et on sera comme lui à ce moment-là. On sera rendu comme lui si on est encore en train d'aller dans cette direction-là quand le Christ va revenir. Ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est le plan de Dieu qui est tellement encourageant. Voyez-vous, avec l'aide de Dieu et en gardant un cœur d'enfant, un cœur humble, c'est-à-dire enseignable, qui est prêt à changer, qui est disposé à obéir, qui est disposé à lutter pour abandonner les choses qui sont contraires aux voies de Dieu, nous devons continuer d'étudier la parole et de l'appliquer régulièrement, régulièrement. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au salut. Connaître la voie de Dieu et en vivre, c'est ça. Absolument, c'est le seul chemin. Et si on fait ça, et je dirais si on continue à faire ça, parce que je sais que les membres d'Église, pour la plupart, ont à cœur de le faire, même s'ils ne sont pas parfaits, on est rendu à des étapes différentes les uns les autres, mais on va vers le même but, et un jour, on aura la même foi, la même maturité, parce qu'on aura fait les efforts qu'il faut d'ici là, selon nos conditions, selon nos situations personnelles. Alors, dans ce cas-là, les choses spirituelles deviennent plus réelles. Plus on fait ça, plus Dieu devient vrai, plus Dieu devient réel, et plus ce qu'il nous demande de faire est vrai et important pour nous, et plus nous sommes fortifiés vers le salut, parce que c'est notre nourriture spirituelle. Ce n'est plus le petit lait, mais c'est la nourriture spirituelle qui nous donne l'énergie spirituelle dont nous avons besoin pour les temps où nous sommes rendus et pour les temps qui approchent, parce qu'on aura besoin d'une force additionnelle. Dieu va la donner si on est en train de la chercher, un peu ici, un peu là, et qu'on la met en pratique avec reconnaissance envers Dieu. Voyez ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet-là, dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, et on va lire le verset 1. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Il faut rejeter ces choses-là. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire rejeter ce qui est de méchant dans la nature humaine que nous avons tous. L'enfant n'a pas ça, on a vu tantôt. Le nourrisson n'a pas de ruse, n'a pas de malignité. Il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de méchanceté. Mais il dit, quand on est adulte, on a développé ces choses-là en tant qu'être humain, tout le monde, mais il dit, il faut se débarrasser de ces choses-là. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, et regardez après ce qu'il dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le recevoir avec un cœur d'enfant, ouvert, sincère, sans hypocrisie. Et le verset 2 que je viens de vous dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Je vais vous donner un petit exemple par rapport aux enfants. Vous avez sans doute tous vu ça. Un petit enfant, il a besoin de lait. Et il en a besoin. Et quand il veut l'avoir, il en a très besoin et il le signifie très beaucoup. Parce que parfois, il va aller même à faire des crises parce qu'il n'a pas eu son lait, tant qu'il n'a pas eu son lait. Et si vous vous rappelez, ceux qui ont eu des enfants, tant qu'il n'a pas eu la dernière gorgée, c'est comme s'il n'en avait pas eu. La dernière, là, ça fait la différence entre être satisfait et pas. Alors, voyez-vous qu'un jeune enfant désire de tout son cœur puis de tout son être avoir le lait dont il a besoin. Et ici, c'est un peu ce à quoi l'apôtre Pierre fait référence, que nous, on doit appliquer ce principe-là dans nos vies. Il faut désirer le lait spirituel par-dessus tout, puis avec zèle. Le petit bébé, dans ce temps-là, il devient nerveux, il s'agite, il gesticule, il pleure, puis il en demande. Alors, c'est un exemple qui nous montre qu'on doit, nous autres, tenir aussi à ce que Dieu nous donne pour qu'on arrive au but. Avoir un désir puis un zèle ardent spirituellement, pour connaître les voies de Dieu, puis les mettre en pratique. Toujours les deux. Connaître les voies de Dieu, les mettre en pratique. Le désirer par-dessus tout. Et c'est intéressant, quand on approche du baptême, c'est qu'on le réalise de plus en plus, puis on le veut tellement, ça. Et ça, faut garder cette fraîcheur-là. Faut la renouveler si jamais elle a tendance à nous quitter. Le Christ précise clairement ce principe-là dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Regardez ce qu'il nous dit au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est gros là comme déclaration. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Et quand vous regardez le sens du mot grec pour violent, ça veut dire ceux qui sont forts, ceux qui sont déterminés, ceux qui utilisent toute leur énergie, toute leur force pour aller vers le royaume. Comme le petit enfant qui veut avoir sa nourriture, son lait spirituel. Là. Et il dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume, qui vont y entrer, c'est-à-dire ceux qui vont mettre tout leur cœur pour y arriver, en faisant les choses qu'il faut, en ne se décourageant pas, parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des temps difficiles, mais en comptant toujours sur Dieu qui, lui, nous assure qu'il va nous amener à terme si nous tenons solidement et si nous mettons notre confiance en lui. Quand vous regardez autour de vous, plus le monde se développe en ce moment, puis il se développe vite, à plusieurs égards, plus le monde se développe en savoir, puis en technologie impressionnante, moins le monde croit aux choses simples et moins le monde croit aux choses vraies. Et c'est pour ça qu'on est entré, surtout avec l'intelligence artificielle, dans un monde de confusion, dans un monde de demi-vérité, dans un monde de mensonges. Et nous, on a besoin d'être proche de Dieu pour rester ancré sur la vérité. C'est là qu'on doit chercher, pas ailleurs, dans ce que l'Église nous montre, dans ce que la Bible nous dit. À nous, Dieu montre qu'il est essentiel de continuer de développer et d'intérioriser la pensée du Christ. Penser comme lui, puis agir comme lui. Et des fois, on doit se demander, dans telle circonstance où on ne sait pas quoi faire, de dire, qu'est-ce que le Christ ferait à ma place s'il était avec moi, là, ou s'il était dans ma position? Qu'est-ce qu'il déciderait? Qu'est-ce qu'il ferait? Et parfois, ça nous aide. Alors, il faut développer la mentalité de Christ tout en gardant, comme j'ai mentionné, l'humilité, la simplicité d'un cœur d'enfant. Ces deux éléments ne sont pas contradictoires, comme je mentionnais au début de mon sermon. Ils nous gardent spirituellement éveillés et nous assurent vraiment de développer le précieux caractère de Dieu pour entrer bientôt dans la famille divine éternelle.